Chapitre 22. Les lanternes fixées à de solides poteaux illuminaient agréablement l'écurie. Une bonne odeur de paille flottait dans la grande allée qui séparait deux rangées de stalles. C'était là que les hommes et les femmes venus parler au seigneur Hall s'étaient massés pendant un long moment. Après que Richard se fût entretenu avec eux, la plupart de ces gens lui avaient souhaité un bon voyage et s'en étaient retournés chez eux. L'aube ne poindrait pas avant de bonnes heures. Bien que l'heure fût inhabituelle, les visiteurs du sourcier n'étaient pas tous des parents des hommes tués dans la forêt. Tous les citadins voulaient en apprendre plus sur la bataille décisive qui aurait bientôt lieu. Même si presque tous ces braves gens étaient repartis se coucher, Richard aurait parié qu'il ne dormirait pas beaucoup jusqu'au lever du soleil. L'idée que des soudards approchaient les empêcherait sûrement de fermer l'œil. Debout près de Richard, Victor ne cachait pas sa tristesse. Évoquer ses compagnons avait à l'évidence ravivé le chagrin de les avoir perdus en de si horribles circonstances. Un grand nombre d'hommes et de femmes avaient pleuré en écoutant le récit du drame. Conscient qu'aucune harangue ne pouvait soulager leur peine, Richard avait préféré parler des défunts, vanter leur courage et souligner à quel point ils lui manqueraient. Les discours ayant des limites, il avait fini par partager tout simplement le chagrin des citadins. Même s'il s'était senti impuissant et inutile, son auditoire avait paru apprécier ses propos. Du coin de l'œil, Richard repéra Nietzsche et Cara au moment où elles franchissaient les lourdes portes de l'écurie. Alors qu'il les suivait du regard, admirant la façon dont elles zigzaguaient entre les citadins qui se dirigeaient vers la sortie, le sourcier se demanda distraitement ce qu'elles avaient bien pu faire pour arriver si longtemps après lui. À un moment, il avait voulu partir à leur recherche, mais il avait dû y renoncer pour faire face aux dizaines de visiteurs qui imploraient de lui parler. Richard s'était rassuré en pensant que les deux femmes voulaient simplement lui laisser le temps de dialoguer longuement avec les citadins. Sinon, Cara n'aurait pas manqué de débouler dans l'écurie pour organiser une petite inspection surprise. Quoi qu'il en soit, Richard était ravi de revoir ses deux amis. Mais pour l'instant, il devait écouter la question d'un vieil homme nommé Hendon, puis y répondre.
« Seigneur Hall, vous pensez vraiment que la créature qui a démoli l'auberge d'Ishak en avait après vous ?»
Accoudé à la porte d'une stalle, le vieux type tenait dans sa main libre une pipe au long tuyau incurvé. Avec sa peau parcheminée et sa silhouette voûtée, Hendon impressionnait les jeunes citadins qu'il avait spontanément bombardés porte-parole. D'un ton calme et posé, il interrogeait Richard au nom de ses concitoyens, et il exhalait des nuages de fumée aux senteurs aromatiques tandis qu'il écoutait les réponses du sourcier.
« Tous les indices laissent penser que cette bête me traque, mon ami. Même si nous ignorons la nature de ce nouvel ennemi, ce point-là au moins semble clair. C'est pour ça que je dois partir au plus vite. Ainsi le monstre ne reviendra pas semer la terreur en Alterang. »
Hendon braqua sur Richard le tuyau de sa pipe.
« Donc, les hommes de Victor sont morts parce que vous étiez dans les environs. »
Victor fit soudain un pas en avant.
« Allons, Hendon. Des gens très pervers veulent tuer le seigneur Hall. Ce n'est pas sa faute. N'oublie pas que des soudards rêvent d'avoir notre peau. Serais-tu coupable si les soldats de Jagang qui viennent pour te tuer faisaient en chemin du mal à notre libérateur? Quand ils sont tombés sous les coups d'un monstre mystérieux, mes hommes étaient en train de combattre l'ordre impérial. La créature de Jagang les a tués alors qu'ils luttaient pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Ils avaient choisi de ne plus vivre à genoux. Ne perds jamais ça de vue. »
C'était une question, rien de plus. Il est toujours bon de savoir où on en est, pas vrai?
Les quelques citadins encore présents approuvèrent du chef.
Tu as raison, c'est légitime,
dit Richard avant que Victor ait le temps de cracher une réponse venimeuse.
« Je ne blâme jamais un homme qui pose des questions, surtout quand beaucoup de vies sont en jeu. Mais les arguments de Victor sont aussi très justes. Jagang veut nous tuer jusqu'au dernier, et pour survivre, nous devons en finir avec l'ordre impérial. »
Ses cheveux blonds cascadant sur ses épaules, Nietzsche finissait de remonter à contre-courant le flot de citadins qui quittaient les lieux. Comme toujours, sa robe noire mettait en valeur sa silhouette d'une étonnante perfection. Mais c'était son aura d'autorité qui lui donnait l'allure d'une reine égarée au milieu de la foule. Et avec son uniforme rouge, Cara faisait une escorte royale des plus convaincantes.
Richard fut un peu gêné par la façon dont les deux femmes le regardaient. Bon sang, on aurait dit qu'elle ne l'avait plus vu depuis un mois. Sans crier gare, Hendon flanqua une grande tape entre les omoplates du sourcier, l'arrachant à sa méditation.
« Bon voyage, seigneur Rall, »
dit-il tout en mâchonnant le tuyau de sa pipe.
« Et merci de tout ce que vous avez fait pour nous. Nous attendrons impatiemment votre retour dans la cité libre d'Alterrang. »«
Merci, » répondit simplement Richard. Hendon s'en alla à son tour. En le regardant s'éloigner, Richard se félicita que ses gens aient compris qu'il s'agissait de leur combat et de leur liberté. Debout près de Victor, Ishak salua Kara et Nietzsche avec son étrange chapeau rouge.
« Enfin, vous voilà. Comment allez-vous, maîtresse Kara? Richard m'a dit que vous étiez remise, mais je suis heureux de le constater de mes yeux. »
Le sourcier suivit Ishak, parti à la rencontre des deux femmes.
« Nous sommes en pleine forme, toutes les deux, »
dit Kara quand les quatre amis se furent rejoints.
« Désolé pour les dégâts à l'auberge. »«
Ce n'est rien. » Des planches et du plâtre, qui s'en soucient? Les gens sont plus difficiles à réparer.
C'est bien vrai, maître Ishak,
approuva la mort de Sith. Richard remarqua que Jamila, à l'autre bout de l'allée, foudroyait son patron du regard. Même si elle ne voyait pas les choses comme lui, elle jugea plus prudent de ne rien dire. Elle tenait par la main une fillette qui lui ressemblait trait pour trait. L'enfant souriait à Richard, qui ne pouvait s'empêcher de lui répondre tant elle était mignonne.
« Ishak, quand j'ai dit qu'il fallait déduire les travaux de ta dette, ce n'était pas des propos en l'air. »«
Pourquoi t'en fais-tu autant ?»
Ishak remit le chapeau sur sa tête.
« De réparation, c'est tout, y a pas de quoi en faire un plat. »
Alors qu'il allait répondre, Richard entendit du raffut dehors. 3 secondes plus tard, quelques-uns des hommes partis en patrouille entrèrent en poussant devant eux 2 colosses, vêtus d'une longue tunique marron, semblable à celle que portaient presque tous les citadins.
« Des espions !»
souffla Victor, qui venait de rejoindre ses amis. Richard s'en serait douté tout seul. Sous la tunique de chacun des types, on distinguait un large ceinturon idéal pour porter une panoplie d'armes. Les troupes de l'ordre approchant, les officiers avaient sûrement voulu que des éclaireurs évaluent la résistance à laquelle il fallait s'attendre. À présent qu'ils étaient prisonniers, ces deux-là pouvaient devenir des informateurs précieux pour le camp de Richard. Malgré tous leurs efforts, le déguisement des fouineurs n'était pas convaincant. Pour commencer, les tuniques étaient trop petites pour ne pas paraître ridicules sur de tels costauds. Ensuite, leurs coupes de cheveux, en brosse pour l'un et au bol pour l'autre, ne correspondait pas à la mode actuellement en vigueur en Alterrang. Silencieux, les deux espions regardaient autour d'eux et gravaient tout dans leur mémoire. 2 salopards aussi dangereux qu'un duo de loups dans une bergerie. D'instinct, Richard s'assura que l'épée de vérité coulissait bien dans son fourreau. Alors qu'un des gardes tournait la tête pour regarder quelque chose, le prisonnier aux cheveux plus longs flanqua un coup de talon dans le tibia de l'homme qui le ceinturait. Tandis que son gardien s'écroulait en hurlant de douleur, l'espion envoya valdinguer sur le sol les 2 autres hommes qui tentaient de le maîtriser. Percutés par les gardes ou tout simplement paniqués, des visiteurs s'étalèrent de tout leur long. D'autres gardes essayèrent de capturer l'espion, mais il les repoussa avec une incroyable sauvagerie. En un instant, le chaos régna dans l'écurie. Des femmes criaient, des enfants pleuraient ou couinaient de terreur. Des hommes braillaient de rage et des gardes lançaient des ordres tonitruants et contradictoires. La confusion et la peur se répandaient comme une traînée de poudre dans l'assistance. Expert en l'art de combattre dans un endroit exigu où l'ennemi ne pouvait pas vraiment faire valoir sa supériorité numérique, l'espion bondit vers Jamila et saisit sa fille par les cheveux. Dans la confusion, le type avait réussi à récupérer un couteau qu'il plaqua sur la gorge de l'enfant. Jamila tenta de secourir sa fille, mais un coup de pied rageur la repoussa, l'assommant à demi. Un garde qui tentait d'approcher en rampant reçut une ruade dans la tête et perdit aussitôt connaissance. Richard avançait lentement, les yeux rivés sur le type au couteau.
« Reculez tous !»
cria l'homme. Encore essoufflé par ses efforts, il ruisselait de sueur, mais semblait parfaitement maître de la situation.
« Allons, reculez ou je la saigne comme un goré !»
La fillette hurlait de terreur et se débattait comme une folle, ses pieds fendant frénétiquement l'air entre les jambes du colosse.
« Lâchez-le !»
ordonna l'espion au garde qui tenait son compagnon.
« Obéissez, sinon la gamine est foutue !»
Envahi par la colère, Richard avait déjà décidé qu'il n'y aurait ni négociation, ni accord, ni pitié. Il se tourna sur le côté, présentant son flanc droit au type, une ruse classique pour qu'il ne voie pas son épée. Occupé à faire libérer son ami, l'espion n'accordait aucune attention particulière au sourcier. Même si le colosse l'ignorait, tout était déjà joué dans la tête de Richard. Pour lui, le salaud qui menaçait une enfant était déjà un homme mort. Au moment où Richard refermait les doigts sur la poignée de son arme, la magie liée à l'épée se déversa en lui, décuplant sa fureur. En un clin d'œil, la soif d'agir avait balayé toutes ses autres sensations. Désormais, le sourcier n'avait plus qu'une idée en tête, voir couler le sang de ce fumier. Rien ne l'arrêterait, et il n'était plus accessible au doute ni à la raison. L'épée de vérité était pour le sourcier un outil précieux. Grâce à cette arme, il était en mesure d'influer sur la réalité, voire de la transformer en quelques occasions. Justement, c'en était une. Richard allait rendre le monde meilleur en le privant brusquement d'un être abject qu'il arpentait depuis des années. Sa vision se focalisa sur la cible de son courroux. Pour lui, plus rien n'existait à part cet espion qu'il devait abattre coûte que coûte. Il suffisait d'une pression, et la peau tendre de la fillette s'ouvrirait. Puis la lame trancherait la carotide, et la fille de Jamila mourrait. Une équation très simple. Mais une équation dont le temps était l'inconnu. Avant de tuer, l'espion devrait prendre sa décision, puis il lui faudrait une ou deux secondes pour passer à l'action. Pour commencer, se décider n'était pas facile. Actuellement, la vie du type était liée à la fillette. Si elle mourait, son bouclier humain n'aurait plus aucune valeur. Avant d'égorger la petite, l'homme devrait prendre en compte toutes ces variables, et là encore, il lui faudrait du temps. Richard, lui, avait déjà pris sa décision, et il était entièrement concentré sur sa tâche. Du coup, il avait en matière de temps une infime avance qui pouvait lui permettre de contrôler la situation. Et il n'était pas question de gaspiller cet avantage. Mais à l'instant précis, ce calcul, si exact qu'il fût, n'avait plus aucune importance aux yeux du sourcier. Stimulé par une colère dévastatrice, un mélange de sa propre rage et de la fureur de son arme, il avait soif de sang. Rien d'autre ne le satisferait. Il ne s'apaiserait à aucun autre prix et il n'accepterait pas d'autre issue à cette affaire. Comme s'il obéissait à l'espion, Richard fit mine de reculer. En agissant ainsi, il entendait détourner de lui l'attention du type et lui laisser tout loisir de faire face à la menace qui semblait la plus pressante, les hommes qui tentaient d'approcher sur ses flancs et dans son dos. Serrant très fort son épée, le sourcier prit une profonde inspiration. Autour de lui, le monde sembla devenir paisible et silencieux. Quand il eut reculé au maximum, compte tenu de ce qu'il avait l'intention de faire, Richard marqua une courte pause. Il compta deux battements de cœur et passa à l'action au moment où le troisième s'annonçait. Devant l'assistance pétrifiée, alors que l'homme au couteau était sans doute en train de préméditer le meurtre de l'enfant, le sourcier dégaina sa lame. Au moment où la gamine hurlait de terreur, l'épée de vérité jaillit de son fourreau en émettant une note métallique à nul autre pareille. Pivotant sur lui-même tandis qu'il frappait, Richard rugit de colère. Dans cet état second, il parvenait à porter des coups d'une vitesse et d'une précision inhumaines. Le temps parut s'arrêter. Comme si la scène s'était figée, le sourcier eut tout le temps de voir la surprise qui s'affichait sur le visage de sa proie. Maintenant, le temps lui appartenait, se pliant à sa volonté, à son désir et à sa colère. Rien ni personne ne pourrait influer sur ses gestes, et il n'était plus que le messager de la mort. Quand l'espion tourna la tête vers lui, Richard vit les gouttes de sueur qui perlaient sur son front. La lumière orange des lampes se reflétant sur ces minuscules éclats de diamants liquides
un arc-en-ciel miniature et bizarrement monochrome se forma devant les yeux du sourcier. Délogé par la violence du mouvement de l'espion, les gouttes de sueur, telles un minuscule geyser, restèrent un instant en suspension dans l'air avant de tomber en pluie vers le sol. Dans son cocon de temps déconnecté du reste de l'univers, Richard aurait pu compter ses gouttes et tous les points lumineux que projetaient dessus les multiples lanternes. Lentement, comme dans un rêve, l'épée de vérité fendait l'air vers sa cible. Tous les regards, y compris celui de la fillette, étaient désormais braqués sur Richard. Même s'il en avait conscience, ça ne comptait plus pour lui. Seul importaient les yeux noirs de l'homme qu'il était à un souffle de tuer. Quand ils croisèrent les siens, Richard y vit le reflet d'une frénétique réflexion. L'espion avait identifié la menace et il tentait d'imaginer un moyen d'y échapper, mais il était bien trop tard et il ne tarderait pas à le comprendre. La lame fendait toujours l'air visant la tête du type. Comme il était prévisible, l'espion, enfin arrivé au terme de sa réflexion, décida d'agir pour sauver sa peau. Mais son hésitation, si courte qu'elle ait été, avait permis à la lame de parcourir la plus grande partie de la distance qui la séparait de son objectif. Envahi par une terreur animale, l'homme se pétrifia, mais cela ne dura pas et dans son regard, Richard lut qu'il recommençait à calculer. Il voulait savoir si la lame de son couteau pouvait battre de vitesse celle de l'épée. Un dernier crime pour célébrer à sa façon son départ du monde des vivants. Le regard toujours rivé à celui de sa victime, Richard vit enfin apparaître sa lame dans son champ de vision. L'épée avait fini de décrire l'arc de cercle qui mettrait un terme à l'existence d'un tueur. L'acier percuta la tête de l'espion à hauteur de ses yeux, exactement le point que visait le sourcier. Au moment exact de l'impact, le temps reprit son cours normal dans une explosion de bruit et d'images. Un rideau rouge brouilla le champ de vision du sourcier. Un voile de sang, ultime salut de l'espion à son bourreau, alors que le tiers supérieur de sa tête, proprement découpé, s'envolait dans les airs. La lame avait fendu la peau, l'os et la matière cérébrale comme s'il s'était agi d'une motte de beurre. Pour porter un tel coup, il fallait plus que de la force et de l'habileté. C'était une affaire de magie et Richard lui-même aurait été incapable d'expliquer ce qui se produisait. L'espion était passé de vie à trépas en une fraction de seconde. Toujours immergé dans sa fureur, le sourcier n'éprouva pas une once de compassion pour le défunt. Le bras armé du colosse foudroyé retomba le long de son flanc. Une seconde après, son grand corps privé de vie bascula en arrière. Ce salaud avait décidé de tuer la petite, de la pure perversité, car ça ne lui aurait servi à rien. Mais il n'avait pas eu le temps de mettre son plan à exécution. Richard, lui, avait été assez rapide. Le troisième battement de cœur venait de s'achever quand il revint à la réalité. L'espion n'avait pas encore percuté le sol. Proprement détaché du reste, la partie supérieure de son crâne volait toujours dans les airs, laissant dans son sillage une traînée de sang et d'humeur répugnante. Des citadins crièrent de surprise et d'autres de terreur. L'épée de nouveau prête à frapper, Richard se tourna vers le second prisonnier. Toujours fermement maintenu par deux hommes de Victor, le type ne semblait pas décidé à tenter de se libérer. Victor approcha à grands pas sa masse d'armes au poing, Kara aussi accourait en brandissant déjà son agiel. Du coin de l'œil, Richard vit que Nietzsche suivait de près la mort de Sith.
« Non !»
cria l'ancienne maîtresse de la mort.
« Arrêtez !»
Victor s'en pétrifia de surprise. Comme si elle pensait qu'il allait exécuter le second prisonnier, Nietzsche lui saisit le poignet.
« Baisse le bras, forgeron !»
Muet de surprise, Victor obéit. Nietzsche se tourna alors vers Richard.
« Toi aussi, charpentier, vas-tu faire ce que je t'ordonne ? Rengaine ton arme et cesse de me défier du regard !»
Richard en scia de surprise. « Charpentier ?»